Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Louis. Il y a quelques années, je travaille dans une radio où je présente des flash infos toutes les heures, avec des extraits sonores et de reportages enregistrés. Je dois lire mon texte, gérer le timing, appuyer moi-même sur une console pour envoyer les extraits. Un matin, je m'installe pour présenter le premier flash de la journée. Je lance un extrait, et là, rien. Aucun son. Je réessaie, encore et encore, rien. À l'antenne, j'explique que c'est un problème technique, et je déroule mon journal sans pouvoir diffuser aucun extrait. Autant dire que c'est très long. Je termine mon flash à bout de souffle et je me rends compte qu'en fait c'est moi, sans le vouloir, qui a déconnecté la fameuse console. Je suis sûre que vous savez exactement ce que j'ai ressenti lors de ma bourde. D'abord, c'est l'incompréhension. Qu'est-ce qui se passe? Puis très vite, vient la honte. Comment j'ai pu me retrouver dans une situation pareille? Et ensuite, une sorte d'abattement, de type « ça y est, je suis foutu ». Tout ça dure quelques secondes où le cerveau semble totalement paralysé, incapable de fonctionner normalement. Tout s'arrête. Au travail, nos erreurs ont une importance décuplée, parce qu'on se sent regardé, jugé. On est payé pour produire un résultat, et l'erreur, c'est l'anomalie, ce qui ne devrait jamais arriver. Du coup, quand ça arrive, c'est très tentant de ne rien dire, en espérant que ça passe. Au risque de rester seul face au problème, que la situation empire et finisse par nous échapper. Alors comment avouer ses erreurs au travail et garder son calme malgré la panique? Je suis Clara Bayot. Bienvenue dans Émotions au travail.
Donc, il s'est passé 10 secondes où j'ai plus de sang dans la tête, plus rien. Quoi. Et on s'est dit, alors là, t'as vraiment merdé. Là.
Jean-François a 38 ans. Son rêve, dès son plus jeune âge, c'était de pouvoir travailler dans la musique.
Très tôt, c'est dès le milieu des années 90. Donc quand j'avais 10, 11, 12 ans, déjà à l'époque, j'allais souvent au Virgin et à la Fnac à Marseille pour m'acheter des CD avec ma grand-mère et j'essayais de voir ce qui se passait. La musique électronique était quelque chose d'assez accessible, beaucoup plus que maintenant. C'est-à-dire que moi, à l'époque, il n'y avait pas Internet, je ne sortais pas dans les boîtes de nuit, j'avais 10 ans. Mes parents ne sont pas dans ce monde-là. Je savais qui était Laurent Garnier ou Carl Cox ou Sven Vatt. C'était des gens qui passaient à M6 le samedi soir, fréquemment. Laurent Garnier avait fait, en 96 ou en 97, les Victoires de la Musique, où il avait fait un show aux Victoires de la Musique. Je me rappelle très bien de ça. J'avais dit à mes parents, regardez, c'est ça que j'écoute, c'est ça que je fais.
En 2006, il déménage à Hong Kong. Après des études en informatique, il décroche des postes prestigieux, mais n'y reste jamais plus de 6 mois. Il n'arrive pas à adopter le métro, boulot, dodo, et s'ennuie à passer des journées entières devant un ordinateur. Ce qui le fait vraiment vibrer, ce sont les sons électro qui l'accompagnent depuis son adolescence. De fil en aiguille, Jean-François laisse tomber l'informatique pour devenir agent d'artiste. Il fait venir à Hong Kong et à Taïwan ceux qu'il écoute depuis son enfance. Son rêve se réalise. Jusqu'à ce qu'il réussisse à booker un artiste en particulier pour deux dates. Breakbot, un DJ français bien connu de la scène électro, qui fait sa première tournée en Asie.
On avait déjà 2-3 ans d'expérience à booker des artistes européens qui étaient quand même assez gros. Dans le milieu des agences de booking européennes, ils savaient qui on était. On était la compagnie avec qui il fallait discuter pour des soirées à Hong Kong et à Taïwan. Donc déjà, on avait une certaine notoriété et puis on était connus pour être sérieux. On payait les artistes étaient cherchés à l'aéroport, ils étaient mis dans des beaux hôtels, et les cachets étaient intéressants pour tout le monde. Et Breakbot, c'était, ça l'est toujours, hein, mais Breakbot, c'était quelqu'un qui était quand même de la même équipe que un gros label qui s'appelle Headbanger, avec d'autres personnes comme Justice qui faisait à ce moment-là Coachella et des tours US, des tours Europe, des tours Asie, et qui étaient inatteignables même pour nous. C'était des rockstars déjà. Et Breakbot faisait partie des artistes préférés de beaucoup de monde, et il avait un profil qui était assez intéressant, mais qu'on a découvert un peu plus tard. C'est quelqu'un qui parlait aux fans de musique électronique comme nous, mais qui parlait aussi aux fans de musique indépendante, ce que nous on appelle les indies, les groupes un peu pop-rock. En France, on dit pop-rock, donc c'est tout ce qui était R, Phoenix, toute cette scène-là qui était plus live, concert. Et donc, c'était un des plus gros artistes pour nous. Et en plus de ça, il n'était jamais venu en Asie. Ce n'est pas un artiste connu qui vient tous les 6 mois ou que tout le monde a l'habitude de voir plus ou moins. Non, c'était quelqu'un de très connu, de très apprécié par plusieurs scènes et qui vient pour la première fois. Au-dessus de ça, c'est quand même beaucoup d'argent pour nous. C'est beaucoup de responsabilités. Il faut qu'on soit au top. Et donc, c'est énormément de pression.
Réussir à faire venir Breakbot, c'est une énorme opportunité pour Jean-François. Il est jeune, il démarre à peine dans un métier où la réputation est très importante. Il faut que ça se passe bien.
On avait booké Breakbot pour 2 soirées. Une à Hong Kong, une à Taïwan. À Taïwan, c'était dans un club énormissime qui venait juste d'ouvrir. Et si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas qu'il venait juste d'ouvrir, je crois que c'était leur soirée d'ouverture. Parce que maintenant, j'ai des souvenirs où 5 heures avant l'ouverture, ils étaient en train de finaliser les cuisines ou quelque chose comme ça. Donc, quand on book un artiste, il faut s'occuper donc du paiement, bien sûr. On négocie un cachet avec le lieu, le manager, l'agence de booking et nous-mêmes, parce qu'à la fin de la soirée, il faut qu'on rentre dans nos sous. Il faut que le bar rentre dans nos sous et l'artiste aussi. Chaque artiste veut son propre équipement. Et c'est un équipement qu'en général, ils ne peuvent pas ramener avec eux. C'est rare, c'est très très rare, les artistes qui ramènent leur propre équipement. En général, c'est le cas avec les groupes de rock, ils ont leur guitare spéciale ou leurs synthés spéciaux, mais tout le reste est loué par le promoteur ou le lieu. Dans le cas de Breakbot, c'était un DJ set. Donc, il ne joue pas sa propre musique, il joue des disques ou des fichiers musicaux avec de l'équipement de DJ. Et dans le cas de Breakbot, c'était assez simple en fait. Il voulait juste 3 ou 4 CDJ, donc ce qu'on utilise pour DJ. Et il voulait une table de mixage Pioneer modèle 900. Donc voilà, c'est tout. Il nous envoie ça, vraiment facile. Tous les hôtels, tous les bars ont ce type d'appareil, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je demande au club, et le club a la Pioneer DJM 2000, ce qui est 2-3 fois plus cher, 2-3 fois plus puissant, plus beau, avec des écrans, c'est tout neuf. Et moi, qui suis connaisseur, je sais très bien que la 2000 est beaucoup plus intéressante que la 900. Donc, j'ai dit au club, j'ai dit, l'artiste veut du 900, mais vu qu'on a du 2000, pas de souci, on va garder le 2000 et on passe à autre chose.
Jean-François s'occupe de répondre à toutes les demandes de Breakbot en amont du concert. Puis il met en vente les tickets et en 10 minutes, tout est sold out. 700 spectateurs sont attendus, la pression monte jusqu'au jour J.
La soirée arrive et, comme prévu, c'est un joyeux bordel, mais on arrive à gérer, mais c'est quand même la queue dehors, la sécurité qui n'est pas super au point, alors il faut qu'on aide. On m'appelle et me dit « va vite à la porte, ils sont débordés, donc je vais à la porte, je vais aider pour scanner les tickets, tout ça. » Et j'entends dans la salle que le DJ qui ouvre la soirée, il fait un super boulot et les gens ils sont chauds, tout le monde crie, il y a beaucoup trop de monde dans la salle, tout le monde est estranciné, donc une super soirée, tout va bien. Et puis, je commence à entendre un clameur. Ouais, je dis, oh, c'est quelle heure hein? C'est peut-être 1h du matin. Voilà, Breakbot arrive. Il va commencer tranquillement à brancher ses machins et tout. Puis, je vois mon ancien associé qui arrive et qui arrive en courant, qui me dit, il n'y a rien qui marche.
Jean-François vient de faire une erreur qui pourrait lui coûter sa carrière. Un artiste hyper connu et qu'il adore est sur scène, mais aucun son ne sort des enceintes. C'est dans ce genre de situation que surviennent soit la bouffée de chaleur, la boule au ventre, ou la sensation du cerveau qui frise complètement, incapable de réfléchir.
Donc, c'est passé 10 secondes où voilà, j'ai plus de sang dans la tête, plus rien, quoi. Et on s'est dit, alors là, t'as vraiment merdé, là.
C'est ce qui arrive à Jean-François, qui est pris de panique, avant d'être sauvé par ce qu'il appelle son mode survie.
Le moment où ça arrive, t'as pas le temps d'avoir honte. Et t'as le temps de voir arriver la panique. La panique, mais en général, avec l'adrénaline, tu sais comment ça marche. Tu passes en mode... il faut régler le souci. Donc, tu passes en mode machine, en fait. C'est pour ça que je dis que je ne pense pas avoir réfléchi plus de 15 secondes pour savoir d'où le problème pouvait venir. Parce que là, il y a l'adrénaline qui arrive. On est vraiment en mode... on survit. C'est vraiment de la mode survie. Tu sais, quand t'as les histoires de gens qui sont des accidents et qui font des choses parce qu'ils sont en mode survie ou qu'ils ont des accidents et puis ils ont pas mal, qui découvrent qu'ils ont mal plusieurs minutes après parce qu'ils sont dans le moment, c'est exactement la même chose. Donc, t'as la panique, t'as pas le temps de penser à tout ça. Même si c'est pas dans 10-15 secondes, je me dis que la soirée est peut-être terminée.
Pendant quelques secondes, Jean-François se dit que tout est fini. Breakbot ne peut pas jouer, le public va devoir rentrer chez lui et il faudra rembourser le club. Il va perdre beaucoup d'argent et sa carrière dans la musique va peut-être s'arrêter. Ça, c'est le scénario catastrophe. Le scénario du pire qu'on imagine quelques secondes après avoir réalisé son erreur.
Moi, ce que je conseille aux gens quand je les accompagne, c'est de dire, attention, faites-vous votre mauvais trip, votre bad trip de « oh là 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 là, c'est la catastrophe, je vais être viré ». Ok, on coupe, on stoppe le film et on s'est dit « et maintenant ?»
Noémie Lemaine est psychologue du travail et coach pour cadres et dirigeants. Elle nous explique que pour sortir de la panique, il faut se pousser à imaginer d'autres scénarios.
On se dit, et si ça se passait autrement? Et de les entraîner à faire des expériences de pensée. Et si ça se passait autrement, ça pourrait se passer comment? On pourrait imaginer, ah, on dit que, ah ben j'ai fait ça, et puis le manager il fait, ah oh, ben toi aussi, t'es la 10e, il faut qu'on change le système parce que tout le monde fait la même erreur, il y a un bug dans le truc. Ah, tiens, pourquoi pas? Et puis, quelles sont les autres hypothèses? S'imaginer d'autres scénarios, ça va préparer aussi le cerveau à voir les choses autrement, à acquérir plus de nuances, en fait, hein, et à sortir de cette vision-là qui va être très binaire, enfin, elle n'est même pas binaire, en fait, elle est unique, c'est drame. Hein. C'est drame ou néant, en fait. Hein. Donc, il y a le drame, et puis il y a des tas d'autres solutions possibles, y compris l'apprentissage et le succès. Donc, c'est se réconcilier avec les erreurs, sortir du drame et imaginer d'autres histoires à se raconter.
La honte, l'embarras, la culpabilité, ces sentiments sont humains quand on se rend compte qu'on a fait une erreur. Mais au travail, ils sont totalement contre-productifs. Ils ne vont pas vous pousser à l'action et vous permettre de réagir. Selon la psychologue, il faut d'abord vous raconter une autre histoire que celle qui dit « je suis nulle, je ne vais pas y arriver ». Je ne suis pas à la hauteur. Ou pire, je vais me faire virer. Surtout que la plupart du temps, en fait, le monde ne s'écroule pas.
J'arrive au DJ Booth, devant les 700 personnes qui me regardent. Il y avait encore de la musique, donc ça allait. Et puis Breakbot qui me dit, ça ne marche pas. Et puis je me rends compte que Breakbot, en fait, il utilise un ordinateur pour faire le DJ. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a des chances pour que ce soit juste un problème de driver. Donc j'ai pris l'ordinateur de Breakbot. On est allé dans les coulisses. Heureusement, dans les coulisses, il y avait du Wi-Fi. Alors c'était il y a 10-15 ans, donc heureusement qu'il y en avait. On a téléchargé le driver, on a branché et ça a fonctionné. En fait, je suis le seul à avoir stressé comme ça. Hein. Parce que c'est moi qui est responsable. Mais l'artiste de Breakbot, lui, il en a rigolé. Il en a rigolé parce qu'il a très bien compris que c'était le driver et qu'il a très bien compris qu'une fois que le driver était branché, ça marchait. Je sais qu'on l'avait réinvité un an ou deux après et il m'en avait reparlé. Et puis, il se foutait un peu de ma gueule. Donc, c'était plutôt un peu de honte. Mais parce que moi, j'ai toujours eu la réputation d'être quelqu'un de sérieux, mais aussi d'être très technique. Donc là, il y avait un problème technique. Moi, ça n'arrive pas, le problème technique, parce que je les prévois, les problèmes techniques, c'est ma spécialité.
Mais ce que dit Noémie Lemaine, c'est qu'on peut être le meilleur expert du monde. L'erreur reste inévitable.
On a toujours ces représentations assez archaïques ou classiques de l'erreur, alors que dans toutes les étapes d'apprentissage, on est obligé de passer par l'erreur. au travail, on est payé pour de la performance, mais on ne peut pas ne pas faire d'erreurs, notamment dans certaines circonstances. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, dans les prises de poste, moi j'accompagne souvent des gens en prise de poste, ça veut dire qu'ils arrivent pour prendre une fonction qui était occupée par quelqu'un d'autre, qui l'avait depuis 3 ans, 5 ans ou plus, et ils vont avoir tendance à se comparer à l'autre, alors qu'ils arrivent, donc ils connaissent pas tout le monde, ils connaissent pas les habitudes, ils connaissent pas les ERP, les outils, la culture, donc forcément qu'il y a des périodes d'ajustement. Donc est-ce que c'est une erreur ou est-ce que ce sont des ajustements, des étapes d'une courbe d'apprentissage qui est inhérente au progrès? On ne peut pas savoir tout de suite, on est obligé d'apprendre, donc on va passer par des étapes d'erreur.
L'enjeu, par contre, c'est de tirer une leçon de son erreur, comme l'a fait Jean-François. Sa carrière ne s'est évidemment pas arrêtée après sa bourde avec Breakbot.
Donc ces 4-5 minutes, elles ont vraiment défini la façon dont j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Et je m'en suis toujours souvenu. Je me dis, je ne veux plus avoir affaire à ce machin-là. Chaque fois que si le DJ demande ça, on va arrêter de faire le malin, parce que c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai voulu faire le gars qui s'y connaissait plus que le DJ. Alors que lui, il a besoin d'un produit spécial parce qu'il a des produits spéciaux. Et je me dis, je vais juste faire ce qu'eux, ils demandent de la façon la plus simple possible.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il faut tirer des leçons de ses erreurs et puis se rappeler que derrière chaque erreur peut se cacher un succès. Pour l'illustrer, Noémie Lemaine cite un exemple bien connu de la pâtisserie française.
Plutôt que de s'imaginer que la performance, c'est ne jamais faire d'erreur, il faut se dire que la performance, c'est de savoir récupérer ses erreurs avec brio, voire même, à partir d'une erreur, de réussir à faire un succès. Comment j'arrive à retourner ça pour que finalement ça devienne peut-être encore mieux qu'avant. J'utilise souvent l'exemple de la légende de la tarte tatin. Je ne sais pas si vous connaissez la légende de la tarte tatin, c'est-à-dire que la légende dit que l'une des sœurs tatin sort sa tarte du four, fait une erreur, puisqu'elle l'a fait tomber, et que bah, voilà, tout est en vrac par terre. Alors elle récupère, elle remet, voilà, vite fait, les pommes sur sa tarte, parce qu'il faut la servir, et elle coule un caramel dessus. Et elle invente donc une tarte tatin, dont le succès a largement dépassé sa tarte aux pommes ordinaire. Donc, il y a moyen, en fait, de se dire, qu'est-ce que je peux faire de cette erreur-là? Est-ce que je ne peux pas la sublimer? Est-ce que ce ne serait pas ça aussi le talent? Est-ce qu'on ne peut pas s'orienter vers ça?
L'erreur qui mène au succès, ça fait rêver. Mais des fautes sublimes comme celle de la tarte tatin, on n'en fait pas tous les jours. En revanche, des petites boulettes par-ci, par-là, si. Ça ne veut pas dire que vos petites erreurs ne peuvent pas servir à atteindre un succès collectif, si votre environnement de travail permet de les exprimer, sans crainte. En 2012, une chercheuse à Harvard a voulu comprendre ce qui rend une équipe de travail efficace chez Google. Eh bien, le premier point, c'est de réussir à créer une sécurité psychologique grâce à laquelle le salarié peut s'exprimer librement, sans censure, sans risque d'être jugé, notamment au sujet de ses erreurs. L'idée, c'est de dire que pour innover, faire quelque chose de neuf, il faut courir le risque de faire une erreur. Et donc, il est dans l'intérêt des entreprises de créer un climat où les salariés ne redoutent pas de faire une erreur et de les dire, sans avoir peur d'être moqués ou sanctionnés. Cette vision de l'erreur comme d'une leçon est ce qui motive des entreprises, surtout dans l'innovation, à mettre en avant le droit à l'erreur pour leurs salariés. Cette conception du management vient de la Silicon Valley et reste plutôt timide en France, sauf dans l'univers des startups. L'idée derrière le droit à l'erreur, c'est de mettre en place une politique de fail fast ou échec rapide pour mettre au point un produit. On teste, on échoue et on recommence jusqu'à y arriver. Par exemple, pour créer une application, au lieu de faire des études en amont pour savoir ce qui va le mieux fonctionner, vous allez mettre au point une première version, forcément imparfaite, puis la faire tester par le public que vous visez. Au fur et à mesure, ces utilisateurs vont trouver des bugs qu'ils vont faire remonter et que vous allez corriger. C'est comme ça, avec des allers-retours, que vous allez pouvoir mettre au point une application béton. Mais dans d'autres secteurs, quand on fait une erreur, le premier réflexe n'est pas d'en faire profiter tout l'open space. Parce qu'elle nous provoque de la honte, on peut être tenté de la garder pour soi. Ce que déconseille Noémie Lemen, à une exception près.
Moi, je conseille d'en parler parce que c'est moyen de progresser. Alors, après, je pense que chacun doit aussi faire preuve de discernement et de peser aussi un certain nombre de risques. Parce que parfois, est-ce que c'est utile d'attirer l'attention sur sa boulette si personne s'en aperçoit ? Franchement, est-ce que c'est utile aussi ? Tout dépend du poids de l'erreur, du contexte et de ce qu'on a à un moment donné à mettre en valeur et des messages qu'on veut faire passer. C'est pas toujours utile non plus d'attirer l'attention sur soi sur un sujet d'erreur.
Si de temps en temps, vous pouvez vous sortir d'un mauvais pas sans que ce soit utile d'en parler, tant mieux. Si l'erreur va se voir à coup sûr ou qu'elle va avoir des effets négatifs, alors là, vous pouvez employer la méthode AAA. Elle a été imaginée par un expert américain en communication, Matt Abrahams, auteur de « Speaking Up Without Freaking Out », comment s'exprimer sans paniquer. Le premier A, c'est pour « acknowledge », c'est-à-dire reconnaître son erreur. Et attention, un simple « désolé » ne suffit pas. Il faut dire précisément quelle a été notre erreur. Ensuite, c'est « appreciate », c'est-à-dire envisager les conséquences. Ne pas dire « c'est pas grave », mais reconnaître que notre erreur va peut-être alourdir la charge de travail de nos collègues, par exemple. Enfin, le dernier point, c'est « amends ». Autrement dit, il faut juste s'excuser. Et idéalement, indiquer ce que vous allez faire pour que l'erreur ne se reproduise pas. Et puis, il y a des scénarios où, effectivement, vous n'allez pas faire une erreur, mais une vraie faute, sanctionnable. C'est ce qui est arrivé à Vivien. Il a été pendant longtemps éducateur spécialisé. Il est sourd de naissance et il voulait absolument travailler avec des adultes et des enfants handicapés. Ses premières expériences professionnelles ne sont pas faciles. Il met du temps à trouver une structure dans laquelle il pourrait s'épanouir. Jusqu'à ce qu'il trouve une annonce pour un emploi qui, sur le papier, lui paraît idéal.
Il y avait les trois quarts, c'était plutôt des jeunes autistes, parce qu'il y avait deux ou trois, rien à voir avec l'autisme, ils avaient des trisomies 21. Mais ils avaient quand même des troubles du comportement. Donc, c'était pas facile à gérer entre les deux populations, puisqu'ils avaient pas les mêmes besoins, les mêmes types de communication. Et c'était pouvoir gérer au quotidien aussi leur frustration, parce qu'ils pouvaient se mettre à frapper, à crier, à avoir des tocs, des écolalies, c'est-à-dire des répéter plusieurs fois la même chose, des gestes répétés, saccadés. Donc c'était vraiment pouvoir les mettre dans des situations où ils pouvaient un peu s'apaiser, être bien dans leur peau.
Les premières semaines se passent plutôt bien. Mais très vite, Vivien se rend compte que contrairement à lui, plusieurs de ses collègues refusent d'utiliser les outils de communication adaptés aux personnes autistes. Au fur et à mesure, l'ambiance se dégrade, les enfants semblent le ressentir.
Alors moi, chaque soir, j'avais des bleus, j'avais des morsures. Puis aussi, on avait un autre jeune qui était beaucoup plus âgé, qui avait 14 ans. Lui, c'était plus compliqué parce qu'il était assez costaud et grand. Mais le problème, c'est qu'il ne voulait pas trop marcher. Donc là, ça posait un autre problème. Parce que là, c'était un peu physique. Parce que il fallait un peu l'aider à se lever. Et puis, il pouvait avoir des gestes très saccadés involontaires. Donc, on pouvait se prendre des coups. Donc... En fait, au fur et à mesure, ça générait en fait de plus en plus de tension, de plus en plus d'agacement. De plus en plus, je me sentais mal. J'allais au boulot, la boule au ventre, j'étais tendu, j'étais vraiment très fatigué. C'était en même temps, j'avais vraiment envie d'être avec les jeunes et en même temps, j'étais en tension et en colère envers mes collègues, en fait. et de la tristesse envers les jeunes. C'est, en fait, il y avait tellement d'émotions, j'avais énormément d'émotions mélangées.
Vivien est fatigué, physiquement, psychiquement. Et malheureusement, il perd à ce moment-là sa grand-mère. Son état est très dégradé et le climat compliqué sur son lieu de travail crée un cocktail explosif, jusqu'à commettre une faute irréparable.
Donc on devait partir à l'activité, à la piscine, mercredi après-midi. Et puis, à un moment donné, je devais m'occuper du jeune, qui est le plus âgé, qui avait 14 ans, celui qui ne pouvait pas marcher, et on devait se lever. Et ma collègue, elle ne m'a pas entendu, elle a emmené les autres à la voiture qui était dehors, et je me suis retrouvé tout seul avec ce gaillard. Et en fait, c'était très compliqué, parce que déjà, moi, j'étais épuisé, j'en pouvais plus. Et j'étais complètement impuissant parce qu'il commençait à perdre ses gestes. Il me frappait sans le vouloir. Hein. C'était pas intentionnel. Donc j'essayais de le prendre, frapper, et j'étais bloqué en fait. Et puis j'ai évidemment une nervosité énorme, complètement impuissant et tendu. Et puis d'un seul coup, malheureusement, en voulant le reprendre sous les aisselles avec le bras là pour essayer de le soulever, et puis en le secouant, il y a un de ses bras qui est passé sous ma bouche, sur mes lèvres, et juste à un moment-là, ben, je l'ai mordu.
Mordre un enfant quand vous êtes éducateur spécialisé, ça ne fait évidemment pas partie des erreurs qui vont être un tremplin vers le succès. Parce qu'il y a un caractère intentionnel, on ne parle même plus d'erreur, mais de faute. La faute implique une sanction.
C'est un espèce de vertige, et je me suis dit, ben c'est bon, j'ai perdu mon boulot. Comme il a pu se calmer malgré ça, j'ai pu le prendre avec moi, j'ai l'emmené à la voiture et tout de suite, j'ai dit à mes collègues, voilà j'ai mordu Victor. Son bras est passé sur mes lèvres et pris... c'était un réflexe maxillaire, je sais pas comment dire ça, mais c'était pas... Et puis, elle était vraiment désolée pour moi. Elle était... on y va. Allez, on va à la piscine, et puis bon, ça s'est passé relativement bien, même si moi, j'étais complètement effondré quand même par rapport à ce qui s'est passé.
Comment avouer une erreur pareille? Vivien se confie tout de suite à une collègue de confiance qui fait preuve d'empathie. Mais il sait qu'il va devoir ensuite dire ce qu'il s'est passé à son directeur. Et là, il n'y va pas par quatre chemins.
Et puis, à notre retour d'activité, je vais voir le directeur, pour lui dire la vérité, puisque moi, j'avais pas envie de cacher, tu vois. Je vais voir les directeurs, j'ai fait un acte répréhensible, j'ai mordu Victor. Pardon? C'est vrai que mordre, c'est pas rien, quoi. Donc oui, évidemment, j'ai le fait d'avoir fait mal à un enfant, pour lui, ça le dépassait complètement. Évidemment, il était très en colère avec moi. En fait, il était en colère et embêté. Parce que je pense qu'en même temps, il flûte. Et pourtant, il sentait que j'avais apporté des choses pour l'équipe. Et là, il m'annonce que j'ai une mise à pied conservatoire de 7 jours. Ça s'entend. Je dis, ok, très bien. Donc, je me suis fait... dès que les jeunes sont partis, et puis je me suis fait ramener par un de mes collègues. Et j'étais complètement, 6 pieds sous terre, au niveau psychiquement, mais complètement ahuri par ce qui s'était passé.
Quelques jours plus tard, Vivien apprend par courrier qu'il va être licencié pour faute grave. Une décision qu'il accepte, tant bien que mal, même si les mots sont durs. Maintenant, avec le recul, Vivien retire une leçon très importante de cet épisode.
Aujourd'hui, tout simplement, je sais qu'il faut vraiment passer le relais très rapidement. Il ne faut pas qu'on arrive à un sentiment d'impuissance à 100%. Ça, c'est primordial. De pouvoir oser prendre le temps d'aller se reposer, de pouvoir passer le relais. Ça, c'est vraiment primordial. Et ne pas en avoir honte, en fait, d'être fatigué.
Effectivement, le contexte de l'erreur est important. Si vous faites des erreurs répétées, ou pire, que vous commettez une faute comme celle de Vivien, ça peut être le symptôme d'un climat de travail qui ne vous convient pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'erreur, c'est quelque chose que vous faites, pas quelque chose que vous êtes. Quand sa collègue montre de l'empathie envers Vivien, elle souligne cette idée que son erreur ne le définit pas. Ce n'est pas un monstre aux tendances cannibales. En revanche, admettre son erreur et s'en excuser comme il l'a fait, c'est accepter qu'on n'est pas infaillible et qu'une meilleure version de nous est possible, individuellement et collectivement. C'est sur ce principe qu'une structure comme l'APHP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris, a mis en place depuis 10 ans une charte dans laquelle elle s'engage à ne pas sanctionner les soignants qui signalent ce qu'on appelle les événements indésirables associés aux soins. Le ministère de la Santé reconnaît lui-même que le plus souvent, ces événements sont le fait d'une organisation du travail et d'une communication déficiente et non le fait d'un seul professionnel. Dans un contexte de manque criant de personnel, l'institution souhaite, comme elle le dit elle-même, tirer les leçons de ses erreurs, en permettant de les recenser un maximum et de comprendre ainsi ce qu'elle peut faire pour améliorer les soins des patients. Vous venez d'écouter « Émotion au travail ». Je suis Clara Bayot, j'ai tourné et écrit cet épisode. Le montage, la réalisation et le mix sont du studio La Fugitive. Louise Emerlet est à la production. À très vite. Bonjour, c'est Zoé Delouis. Dans Émotions au travail, on décrypte toutes les émotions qui vous traversent et vous bousculent parfois dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un podcast super inspirant, Bienvenue dans l'ascenseur, animé par Anne-Cécile Sarfati. Dans chaque épisode, elle reçoit des personnes aux profils variés, médecins, responsables commerciaux, chefs d'entreprise, qui ont su gravir l'ascenseur social. Partis de rien, ils et elles partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien et bonne écoute.